as suivi mes instructions?
C'est de mon amour.
Oui, oh César. Pour commencer, ces malheureux Gaulois devront affronter nos plus féroces gladiateurs.
Avec Denis Chessou.
Après, pour les survivants, s'il y en a, nous lancerons les fauves. Nous avons des lions, des tigres, des panthères et même des ours.
Sur France Inter.
Oh, c'est une très belle affiche. Le public sera content. Bien, bien.
Eh ben nous, on va pas jouer avec les ours. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans CO2 Mon Amour. Eh bien oui, donc cette émission avec la nature qui chuchote à vos oreilles, avec aujourd'hui à la technique Djenab Sangaré, assistée de Camille Blanès, c'est Jérôme Boulet qui réalise cette semaine cette émission. Et qui commence bien sûr par une petite humeur. Fête des mers, bah bien sûr, mais aussi fête des mares. Jusqu'au 5 juin. Discrète fête, car une mare, c'est modeste. Ça ne la ramène pas. Et une fois creusée, mise en eau, ça se débrouille toute seule. Entre 1950 et 1980, la moitié de nos mares disparaissent. Comblées, mais pas comblées d'aise. Dans la Beauce, Bertrand Sajaloli, qui est universitaire, a enquêté et nous dit que les mares étaient nombreuses, multi-usages, chacune sa fonction. Pour brosser les chevaux, laver la nourriture, une autre pour le linge, une autre médicinale, oui, qui abritait les sangsues. On pilotait les mares. Alors, qui est l'assassin des mares, le killer du triton? Eh ben le robinet. Eh oui, avec l'heureuse eau courante dans la modernité des années 60, on veut de l'hygiène, du fonctionnel, du propre, de la facilité. Et donc c'est un immense progrès pour nos parents et pour nos grands-parents. Le robinet arrive, on ferme les mares, on les fait taire, on bouche leur bouche, elles ne chantent plus. Ce qui vous évite d'ailleurs des conflits de voisinage actuels avec les urbains déboulant à la campagne, qui aiment les vaches sans sonnaille, les clochers sans cloche, les coqs sans corde vocale et qui aiment les mares sans grenouille. Heureusement, nos mares changent d'image et ne sont plus des lavabos pour sorcières, mais des points d'eau indispensables avec la galopade climatique. Alors, si j'étais salamandre peinte en noir et jaune, j'irais pondre mes petits dans cette mare bien fraîche et si tranquille. Là, vous voyez, planquée en lisière de bois, puisqu'elle a survécu comme quelques autres, sans poisson rouge, sans drainage, en humble réservoir de vie et d'eau pour libellules, grenouilles, tritons et contre les incendies qui remontent vers le nord. Alors, il faut les faire prospérer, ne serait-ce que pour lutter contre les larves du moustique tigre, prêt à gâcher nos belles vacances. Ah oui, parce qu'il faut toujours au moins trouver une raison pratique à toute chose dans ce monde cartésien. Merci donc à la Société Nationale de la Protection de la Nature, avec l'OFB, FNE, les conservatoires des espaces naturels, pour cette fête qui nous incite à laisser une place à la nature spontanée, à ne pas nuire à ce qui nous permet de vivre. Je vous ai cité FNE, eh bien parlons-en, car sur les pentes verdoyantes du Bargy en Haute-Savoie, il vaut mieux pour France Nature Environnement et la LPO la tenir fermée, autrement dit se taire. Car si jamais les responsables agricoles du lobby du reblochon local apprennent que vous émettez le moindre doute sur leur façon de gérer les bouquetins malades, et là je vous renvoie à mes récents éditos que vous retrouvez en podcast, attendez-vous à ce que de courageux gros bras viennent déverser nuitamment du lisier sur les locaux de votre association. Méthode éprouvée, lâche, récurrente et parfaitement républicaine pour faire taire les partisans d'une écologie punitive, quoique non armée. Alors, en tout cas, ne gâchez pas le lisier ou le fumier parce que ça peut être un merveilleux engrais. Plutôt que le « y'en a marre », fêtons les mares. Alors rendez-vous, donc le menu du jour, vous l'avez compris, rendez-vous sur le boulevard des Ours en Vallée d'Aspe, dans les Pyrénées-Atlantiques, dans cette belle et vaste région de Nouvelle-Aquitaine, avec l'homme qui a vu les ours, j'ai nommé Jean-Jacques Camara.
Mal barré, oh chérie, je te resserre un café. Il est un peu serré pour que tu te fasses à l'idée que ce sera bien lui le dernier. Enfin, c'est ce qu'on dirait. Oh chérie, peut-être me suis-je emballé, ou c'est juste lui qui s'emballe, ou Moi qui me suis fait des idées et lui simplement désiré. Mais je sais qu'un jour viendra l'amour. Il a juste pris un détour.
Donc c'était Marie-Flore et qui chantait donc Mal barré. Est-ce que c'est Mal barré pour les ours? C'est pas exactement la grande forme, mais quand même ils sont là dans nos Pyrénées et on en parle.
Là on regarde vers le sud, vers le chaînon du Pic d'Asp au fond là-bas. Et tout le versant qui est ici sur la gauche, c'est-à-dire qui est côté est, le flanc est de la vallée d'Asp, ouais. C'était une zone qui était une des dernières zones à ours pyrénéennes. Et maintenant, il y a les ours encore aussi. Et toute la zone qui est de l'autre côté, là-bas, c'est-à-dire le versant côté ouest de la vallée d'Aspe, là, il y avait moins d'ours. Ils ont eu beaucoup plus de mal à se maintenir. Les reproductions ne se déroulaient pas là-bas, quoi. Ils étaient ici, quoi. C'était ici que restaient les oursons.
Ouais, c'est vraiment
tout
chez vous,
là. Il y avait quelques ours qui passaient de l'autre côté. Ouais. Mais depuis les années 70, 75, 76, moi, je me suis intéressé à l'ours. Ça a toujours été de tout temps, là. Voilà. Alors, bien sûr, si on remonte aux années 50, aux années 30, il y avait des ours partout. Maintenant, quand moi j'ai commencé, c'était ici, surtout. Il y avait une zone assez petite, mettons 80 000 hectares, et là-dedans, il y avait une douzaine d'ours. Et c'était une douzaine d'ours qui étaient tous des ours de la même famille, puisque souvent, c'était la même ours qui donnait naissance à tous les oursons, alors elle les éduquait un peu de la même façon, quoi.
Cannelle, papillon, pyros, chocolat, canelito, claverina, sorita, néré, eh ben, des noms d'ours ben, qui ne savent pas évidemment qu'ils ont été nommés ainsi. On est heureusement déjà loin de l'époque des montreurs d'ours dans les fêtes de village. Alors, relation qui a toujours été singulière entre l'ours et l'humain, fascination, rejet, peur, admiration, proximité et crainte réciproque. Mais que serait notre imaginaire dans nos rêves? Hein, avec des Pyrénées sans ours. Alors on va grimper sous le toit du ciel, c'était un ciel d'été, chez Jean-Jacques Camara, chez lui dans son nid d'aigle plus qu'un nid d'ours, dominant la superbe vallée d'Aspe, donc vallée au pied des roches, c'est sa signification. On est au-dessus du village d'Etzotz, donc si vous voulez c'est un peu la césure entre le Béarn et le Pays Basque, hein. L'Escar n'est pas loin, on est dans cette vieille ferme usée par 5 siècles, carapacée de pierre et d'ardoise et qui veille sur le pays de l'ours. Et Jean-Jacques Camara, c'est notre guide, hein, reconnu dans le monde, jeune ancien responsable du réseau Ours à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, et donc des décennies à passer à étudier l'ours brun et à se battre pour sa préservation. Il a écrit un formidable bouquin d'ailleurs aux éditions de la Salamande qui vient de sortir, qui s'appelle « Au pays de l'ours ». Allez, on part, on le rejoint dans ces Pyrénées, dans cette vallée d'Aspe.
On n'est pas très haut en altitude ici, pourtant, on est à 1100 mètres. Mais il y a un sentier qui est un ancien sentier qui était très étroit, que j'ai élargi. C'est pas loin de chez moi. Hein. J'ai retourné la terre, très bien, mais je savais que les ours passaient dans le coin. Le lendemain matin, je suis revenu pour voir mon travail et pour continuer mon travail. Et il y avait des traces de ours qui étaient passées la nuit ici, exactement à l'endroit où j'avais travaillé la veille. Et c'était étonnant parce qu'il avait fait le tour du quartier ici.
Parce que nous sommes quand même ici, dans un ancien spot, vraiment, pour ouais. Les ours.
Ah ben oui, oui, bien sûr. Les endroits là qu'on ne voit pas d'ici, mais qui sont derrière la crête. La crête est à 1200.
Ouais.
Et derrière, il y a une grande vallée sauvage. Hein, pas de route, il n'y a rien. Là, c'était un peu la nurserie pour les ours. Toutes les mises bas se déroulaient dans cette zone-là. Tous les 2 ans, en gros. On avait une famille d'ours qui vivaient dans ce coin-là. Et au cours de leur première année, les oursons venaient rarement par ici en bas. dans ce quartier-là. Par contre, au bout de leur seconde année, ça y est, ils commençaient à parcourir des distances de plus en plus importantes. Et ils venaient traîner par ici, et très bas, ils venaient jusqu'à 700-800 mètres d'altitude même.
Alors un ours va quitter sa mère à quel âge ? Un an, deux ans ?
Un an et demi, juste avant la période de rut, pour éviter la rencontre des mâles qui n'aiment pas trop voir les oursons, hein. À part si ce sont leurs oursons.
Et... ils sont très territoriaux, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a de la concurrence avec des jeunes, quoi, donc, parce qu'ils vont s'emmener mal.
Ils ne sont pas territoriaux, il y a des ours dominants. Voilà, donc quand un ours dominant arrive dans un coin, les autres s'esquivent. Non, non, les ours cohabitent. On peut avoir au même endroit 5-6 ours ensemble. Mais les ours sont jaloux de leur indépendance, de leur solitude. Donc ils aiment bien vivre seuls. Déjà, un jeune ours, quand on le voit souvent, soit à l'observation directe, soit quand on le voit sur des vidéos ou autre, le moindre bruit peut les faire sursauter, ils ne sont pas tranquilles. Ils sont toujours en train de flairer le vent pour voir s'il n'y a pas un autre individu qui traîne dans le coin, plus gros qu'eux, par exemple. Alors que les mâles, les gros, ils sont beaucoup plus tranquilles.
Ouais, c'est ça. Alors, ils fonctionnent beaucoup à l'ouïe, ils fonctionnent à l'odeur. Ils ne fonctionnent pas tellement à la vue, ils ont une vue assez moyenne. Quoi.
Non, oui, c'est surtout l'odeur. Oui. L'odeur, c'est, ils sont toujours en train de flairer.
On les voit,
ils ont un odorat qui est plus développé que les chiens même. Voilà, on est ici à la limite supérieure des chaînées. Et les chaînées, donc, ce sont des zones qui sont extrêmement intéressantes pour les ours en automne parce que...
Il y a du gland, là.
Mais du gland, pas tous les ans, mais ça produit pas mal, ouais. Alors, cette année, on n'a pas trop de gland. Il y a beaucoup, beaucoup, énormément de faine. Alors, la faine, c'est plus facile, peut-être, pour les ours parce qu'il y en a un peu partout dans la montagne. Vraiment très bien dispersés dans toute la zone qu'on voit ici, toutes ces grandes haies, là. Par contre, les chaînées, il y en a très, très peu, quand même. Elles sont assez rares. Elles sont dans des endroits plein sud. Et des endroits plein sud où souvent elles ont du mal à se maintenir du fait des feux courants qu'il y a en plein hiver là et qui détruisent quand même pas mal de peuplements forestiers quoi de plus en plus puisqu'on a ce fameux réchauffement si on peut dire ou surtout une sécheresse qui est assez durable quand même à certaines époques. Si le feu commence à s'emparer de versant, on l'arrête plus.
Oui,
cette année on a eu encore là un gros 100 et quelques hectares qui ont brûlé quoi.
Attendez, n'allez pas trop vite parce que...
C'est un vieux sentier.
Vous tracez comme
un isard. Il est très large, on voit. Il est dallé, bon, on ne voit pas bien les dalles, mais c'est, il est dallé. Il était utilisé autrefois par les bergers pour monter dans les estives. Et il est quand même assez raide. Hein, et là, maintenant, il est entretenu depuis 3 ans pour faire un sentier de l'ours, dans quelques touristes qui passent, qui se baladent.
Alors, on ne va pas voir la tanière, Jean-Jacques, parce que la tanière, ça va être quand même des endroits, un, qui sont secrets, et puis quand même... Je ne suis pas sûr que le randonneur puisse croiser une tanière qui va être planquée.
Non, 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 une tanière, c'est souvent dans des endroits très escarpés, des cheminements qui sont assez compliqués pour y accéder. Souvent, ce n'est pas si spectaculaire que ça. Hein. Les plus spectaculaires sont les tanières qui sont creusées par les ours, les terriers. Ça, c'est assez spectaculaire parce qu'il y a un déblai énorme. On voit que l'animal, là, il s'est donné de la peine pour s'aménager un cocon hivernal. Quoi. Après, il y a d'autres tanières, c'est un trou dans la roche, une cavité rocheuse, et puis il y a une petite litière au fond, et voilà, ça ne va pas plus loin que ça. Hein.
Il faut quand même rappeler qu'il a des griffes assez impressionnant, mais pour gratter avant toute chose. Hein. C'est pas pour attaquer, c'est pas un chasseur directement.
Mais les griffes, d'abord, elles ne sont pas serrées, comme celles d'un tigre ou d'un félin. Elles sont cassées, elles sont arrondies. Et on voit que vraiment, elles servent à fouisser, à creuser. Ouais. Alors, il s'en sert pour griffer les arbres aussi, pour marquer sa présence.
Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Prenez la vie du bon côté, riez, sautez, dansez, chantez, et vous serez un ours très bien léché.
Jean-Jacques Camara, vous ne pouvez pas imaginer donc, ces Pyrénées sans ours, parce qu'en fait, ils sont là évidemment bien avant l'homme, c'est sûr, ils apparaissent quand à peu près ?
En Asie centrale, il y a 600 000 ans à peu près, enfin, il y a plusieurs centaines de milliers d'années que sont apparus les ours bruns, qui sont issus d'une branche des ours noirs aussi, enfin c'est très ancien quoi. Mais dans les Pyrénées, l'ours a toujours été présent.
Il était chez lui et l'homme est arrivé après.
L'homme est arrivé après, voilà, l'homme s'est installé après évidemment, et c'est le cas dans beaucoup d'endroits. Hein.
Parlez-nous, Jean-Jacques, de la relation quand même entre l'homme et cette bête ici. Parce qu'il y a toujours eu un côté peut-être « je t'aime moi non plus », mais enfin, bon, il fallait se défendre.
Quand la chasse à l'ours était permise quand même. Hein.
Oui.
Donc, dès qu'il y avait des dégâts, souvent, il n'y avait pas d'indemnisation. Les gars, ils partaient dans la montagne et ils essayaient de tuer l'ours. Alors, ils tuaient le bon ou pas le bon, ou ils n'en tuaient pas. Après, ça a été, il y en avait moins, et là, les ours couraient tout autant, mais les gars ne les chassaient plus quand ils ont été protégés, les ours. Il y en a qui ont été tirés, bien sûr, mais néanmoins, les ours, ils couraient, parce que les chiens sortaient des sangliers, mais quand les chiens couraient dans une forêt ou qu'ils allaient débusquer des sangliers, ils ne regardaient pas s'ils débusquaient un sanglier, un ours, mais l'ours, ben, il ne reste pas, il s'en va, quoi. Alors... Donc il y avait une relation avec l'homme de méfiance, quoi. Toujours, de tout temps, quoi, je pense. L'ours pyrénéen, il est vraiment très discret, farouche, de ce fait-là, parce qu'il était en cohabitation étroite avec l'homme, on le voit. C'est mité un peu partout, il y a des habitats.
Ouais.
Et l'ours, il ne vit pas qu'en haut, là-bas, dans la tresse sapinière, il descendait ici en bas, et il fallait qu'il jongle un peu avec les quartiers habités. Il se méfie beaucoup, hein. Alors que ce qui n'est pas le cas, par exemple, des ours d'Europe centrale, de Sibérie ou ailleurs, où la présence humaine est beaucoup plus faible. Et là, les ours se méfient moins de l'homme. Un petit peu moins, il y a un comportement un peu plus relax, quoi, par rapport à l'homme. Alors qu'ici, c'est un peu plus serré. Et alors, ces ours slovènes qui ont été réintroduits...
Et oui, donc quel est leur comportement?
Et ben,
Parce que vous avez beaucoup de gens qui vous disent « Ah ben, ils ne sont pas comme, pas comme les nôtres. »
On peut penser qu'au départ, vu qu'ils rencontrent moins d'hommes, on pourrait penser qu'ils aient une peur moindre de l'homme, mais en fait, ils apprennent vite. Ils récupèrent le même comportement que l'ours pyrénéen. On a par exemple un ours comme l'ours néré ici, qui est un ours slovène. Ben, on ne le voit jamais. Il sort à la nuit, personne ne le rencontre. Enfin, c'est un ours slovène extrêmement discret, donc... Il n'y a pas de différence notable, quoi. Non, non, l'ours est un animal qui a un comportement extrêmement plastique, et dès qu'il se rend compte que l'homme est là, qu'il prend sa place, l'ours, il va se caler dans son coin et il ne va rien...
En fait, pourquoi on a eu de moins en moins d'ours dans cette vallée et aussi dans les Pyrénées, avant que l'on renforce, comme on dit, la population?
Je crois qu'on a tué des ours, parce que c'était une défense automatique, hein, pour ne pas qu'ils fassent de dégâts. Donc il y a eu une descente des populations à partir de la fin du 19e siècle, hein. Progressive, parce qu'il y avait des chasseurs d'ours professionnels, parce qu'il y a le poison qui est arrivé, voilà. Et donc ils ont régressé en permanence. Puis, probablement vers les années 50, leur nombre n'était plus assez suffisant, quoi, pour se maintenir, donc ils se sont reproduits, et la consanguinité jouant aussi, il y avait moins de reproduction, des portées plus faibles. Je dis ça parce que je l'ai vu sur les dernières ours qu'on avait, pyrénéennes. Les portées étaient très faibles, il y avait un ours, rarement deux, donc ça a disparu progressivement, et on l'a vu.
J'étais bien placé, là!
Fallait m'attendre, petit! Fallait m'attendre! Il a touché à l'épaule gauche. Il a fait la toupie sur ses antérieurs. Droite à gauche. Tu vois, un ours tourne toujours à l'intérieur de sa blessure. Blessé à une patte postérieure, il n'aurait pas pu se redresser. C'est foutu, voilà tout. Il est loin, alors qu'il est.
Alors, Jean-Jacques, cet animal, notre ours, va devenir un animal politique en 1982. C'est là qu'il va y avoir donc... un ours qui est tué, je crois aussi ses oursons, et là, on change de température. Parce que jusqu'à présent, bon, ça fonctionnait, quoi, ça cohabitait, il y avait quand même, si on pouvait se buter un ours, on le faisait, mais là, on passe à autre chose.
Ben, ça vient se télescoper avec le fait qu'il y avait de moins en moins d'ours, que ça devient une espèce emblématique aussi. Donc les gens commencent à se rendre compte qu'il y a des ours dans les Pyrénées. Ah bon, je pensais qu'il n'y en avait qu'au Canada. Et on se dit, mais bon, on a quand même une certaine sacrée patrimoine, quoi. Donc il y a des intérêts de conservation. Et puis il y a l'écologie qui arrive. Et effectivement, ça devient un animal emblématique, porte-drapeau un petit peu de la faune qu'on veut protéger. Enfin, c'est vraiment l'animal qu'on met en avant. C'est en plus une espèce parapluie. Lorsqu'on protège l'ours, on protège toute la zone dans laquelle il vit, quoi. Alors évidemment, ça touche à pas mal d'activités après. Ça touche aux activités pastorales, ça touche à la chasse, qu'on doit gérer d'une façon compatible avec la conservation de l'ours. D'où les problèmes qui commencent à arriver. Et sur de grandes superficies, en plus, puisqu'un ours, ça court très loin, quoi. Ça va très très loin. Et d'autant plus que ce fameux ours emblématique et nounours des citadins, c'est également un animal qui est haï par les locaux et surtout par les éleveurs, parce que c'est une bête qui a fait des dégâts. Et il était de bon ton d'aller chasser l'ours lorsqu'il y avait des dégâts qui étaient signalés dans la vallée, quoi. Le gouvernement et l'État français, le ministère de l'Environnement, demandent d'un seul coup aux gens qui haïssaient cet animal de le protéger, quoi. Oui. Parce qu'il y a des gens qui habitent dans les villes et qui veulent qu'on le protège. Alors ça, c'est très bien passé. C'est pas très bien passé. Alors ensuite, la conservation de l'ours, comme c'est un animal emblématique, il y a des fonds importants qui se sont greffés pour la conservation. Donc il y a eu des intérêts politiques là derrière. Vu que c'est un animal populaire emblématique, il attire les médias. Je ne sais pas maintenant, mais il y a 7-8 ans, c'était le second sujet traité par France 3 Sud à Toulouse. Donc ça veut dire que l'ours, c'est un animal qui est quand même intéressant, qui intéresse tout le monde.
Eh ben ouais, l'ours, il fait du buzz. Il n'y a pas que les abeilles dans cette affaire. On va poursuivre les voyages, parce que c'est quand même très intéressant ce que nous raconte Jean-Jacques Camara. Juste après quoi, cette chanson.
Loin des rodéos américains, loin des accords latino-cubains, j'ai le cafard des fanfares. La joie s'anime et rend les gens heureux. Dans le poumon j'ai une épine, moi je reste pas au milieu. Le manoï m'ennuie, ciao le chahut, plus de bras dans la hola. Hi, hi, viens revoilà le cafard des fanfares. Dans les foires ça foire, c'est le cafard des fanfares. Faudrait appeler ça cafard des fanfares. C'est encore là le cafard des fanfares. J'ai le cafard des pétards le 14 juillet discret. Moins soucieux au coin de mon feu que sous ceux des cieux. Loin des guitares électrocentriques. Le 21 juin, j'aime plus la musique. Ma somme me sonne et j'ai peur des klaxons. L'isolement seulement c'est triste mais jamais ne me ment. Le monoï m'ennuie, ciao le chahut, plus de bras dans la hola. Hi, hi, viens revoilà le cafard des fanfares. Dans les foires sa foire c'est le cafard des fanfares. Faudrait appeler ça le cafard des fanfares. C'est encore là le cafard des fanfares. Tiens, revoilà. Tiens, revoilà. Tiens, revoilà. Tiens, revoilà. Tiens, revoilà le cafard des fanfares. Dans les foires, sa foire, c'est le cafard des fanfares. Faudrait appeler ça le cafard des fanfares. C'est encore là le cafard des fanfares.
Et ben voilà, donc le facétieux Thierry Dupin et le non moins facétieux, donc Jérôme Boulet, ont choisi ours. C'est très amusant, mais oui, bien sûr, ils l'ont fait. Le cafard, donc, des fanfares, oui.
Bonjour, c'est Henry Brown, 32 Windsor Gardens. J'aimerais ajouter une garantie à mon contrat d'assurance.
CO2, mon ami.
Voilà, je vous explique. Nous avons un invité pour la nuit, un ours. Et je voudrais également être couvert en cas de dégâts. Oui, un ours.
Denis Chessou.
Non, un vrai. Donc, combien ça me coûterait?
Sur France Inter.
Ah bah oui, il faut se renseigner. Et bien sûr qu'il faut se renseigner. Alors évidemment, quand je suis un jouet en peluche, quand je suis un teddy bear, un Winnie, un collard gold, un petit ours brun, mais alors là, on m'aime. Mais en vrai, ma vie d'ours est quand même très compliquée. Je fascine les uns, je représente la bête à abattre pour les autres. Aujourd'hui, je suis un bouc émissaire idéal d'une crise bien plus profonde du pastoralisme. et qui pourtant est bien aidé grâce à l'ours. Alors, si vous êtes en voiture, vous ne le savez pas, mais vous roulez avec un ours dans votre autoradio, ne vous inquiétez pas, vous êtes sur France Inter, CO2 mon amour. Voilà, oui, et puis il est excellent pour le covoiturage. On rejoint Jean-Jacques Camara, donc chez lui dans la vallée d'Aspe.
Donc, ça glisse un peu là, hein, mais comme on voit là, c'est, dans le coin, les pattes sont raides hein, quand même. Hein.
Puis notre ours, il est aussi omnivore. Ça, c'est quand même une chance. Alors, c'est-à-dire qu'il n'est pas que carnivore comme...
Ben, il nous ressemble, voilà, il nous ressemble beaucoup. Ça fait beaucoup rire de voir les ours quand ils mangent du miel, quand ils tapent dans une ruche, ils ont des abeilles tout autour. Un ours, ça ne grimpe pas un arbre, un ours, ça sait nager. Ça, c'est un homme.
On l'appelait loup moussu.
On l'appelle encore, loup moussu, bien sûr. Le monsieur, le courayat, celui qui court dans la montagne, l'homme sauvage qui vit dans la forêt. Hein.
Là, en ce moment, il commence à se nourrir comme il faut
Maintenant, ils font des réserves, oui, mais parce qu'il y a beaucoup de nourriture. Ils mangent, donc la nourriture est vraiment, c'est de la nourriture, ce sont des baies, ce sont des fruits secs, donc qui leur permettent de synthétiser beaucoup de graisse, qui leur permettra de survivre en hiver. Ils ne bougent pas beaucoup, vu qu'il y a de la nourriture, donc ils font du lard. Ils se préparent petit à petit. Et puis plus ils vont s'approcher, on va s'approcher de l'hiver, et plus ils vont être gras. Et après, ils pourront rentrer en hibernation.
Un ourson prend soin de son petit bidon. Il lui donne des trésors sucrés. Un ourson prend soin de son petit bidon. Jamais il n'oublie de manger. Quand le petit bidon est grognon, l'ourson cherche le miel, ça aurait pire. Car il a le chic pour trouver un pique-nique, excepté si le miel est parti.
Alors quel danger y a-t-il en fait ? Si voilà, je suis randonneur, il y a des gens qui se posent la question en se disant « Bon, je peux avoir, est-ce que je dois avoir peur d'un ours ?» Ou bien est-ce qu'il il a la trouille de vous et il vous sent de toute façon, il sait à peu près où vous passez si vous êtes randonneur
Alors, l'ours, lui, avec son flair, il va aller se mettre de façon différente dans des endroits où il y a moins d'odeur, et puis il va aller se caler dans les endroits, se reposer la journée dans les endroits où il n'y a rien. D'abord, où il n'y a pas d'autres ours, parce qu'ils font attention entre eux. Ouais. Je crois qu'un ours a plus peur d'un autre ours que d'un homme, presque. Donc il va aller se mettre dans les endroits éloignés. Alors, si on rencontre un ours, c'est vraiment le grand hasard, quoi. Ouais. D'autant plus qu'un ours, quand il est sur un sentier, il sait qu'il est sur un sentier, il flaire, il sait qu'il y a des odeurs d'hommes, et là, il sait qu'il peut rencontrer. Il peut être surpris, bien sûr, il le saura, mais ça va. C'est pas comme si on allait le récupérer, se montrer dans sa tanière, là c'est pas pareil. Oui. Là, il va vous charger, c'est pas du tout la même chose. S'il a la capacité, la possibilité de fuir, de s'échapper, il n'y a pas de problème, il va s'échapper tranquille et puis il va tourner les talons. Si vous avez la malchance de tomber sur une femelle avec des oursons, voilà. Il vaut mieux s'esquiver et puis essayer de ne pas s'approcher. Quoi. Moi, je me suis trouvé entre la mer et l'ourson dans les Pyrénées. Et ça s'est bien passé pour moi, hein. Je n'ai pas été chargé par la mer et tout. Regarder l'ours dans les yeux, puis lui parler éventuellement. Et moi, je n'ai pas parlé cette fois-là parce que je n'avais plus de voix. J'étais complètement... J'avais très peur. Mais... Ah oui. Bon, mais je n'avais pas eu de soucis. Quoi. Alors, si vous surprenez une femelle ou alors vous empêchez les oursons de revenir près de la mer, ça risque mal de se passer. Voilà. Mais ça, la rencontre d'une femelle avec des oursons, c'est relativement rare.
Comment vous envisagez maintenant le devenir de cet animal ? Parce qu'on va dire qu'il est quand même un peu sous perfusion. Avec des relâchés. Et comment ça peut être ? On en a une cinquantaine à peu près aujourd'hui.
Oui, on a une cinquantaine d'ours. Il y a une bonne reproduction. Cette année, pour l'instant, il y a au moins 5 portées. Les femelles se reproduisent. Je crois que l'avenir de l'ours dans les Pyrénées, il va rester. La population est en bonne voie. Alors, par contre, la conservation de l'ours s'accompagne d'une gestion des comportements des ours. Et je crois que lorsqu'il y a des ours qui montrent des comportements qui sont déviants, eh bien, il faut gérer ces comportements-là. Quoi.
Ça veut dire quoi ?
Ah, ben, il y a des ours qui sont des ours à problème.
Oui.
Ben, là, je crois qu'il ne faut pas hésiter. C'est des choses qui auraient pu être faites sur certains ours par le passé, qui n'ont pas été faites, qui n'ont pas pu être faites non plus. Je pense que c'est donner également un bon signal aux gens qui les côtoient tous les jours, comme les éleveurs, qu'on veut faire cohabiter l'homme et l'ours avec des règles bien précises qui ne soient pas des règles que certains subissent, comme les éleveurs par exemple. Donc on a les moyens techniques de faire de la cohabitation, on peut le faire très facilement. Hein. Le tout c'est l'acceptation. Je crois que Le gros du travail, là, actuellement, pour moi, c'est de faire accepter l'animal. C'est le patrimoine que l'on garde et qu'il faut qu'on fasse fructifier. On l'a, on ne va pas le détruire. Souvent, on nous dit, moi, les ours des Pyrénées, oui. Les Slovènes, non. Bon, ouais. Alors, les ours des Pyrénées, on est d'accord, on veut bien les garder. Mais vous savez très bien qu'il y en avait très très peu, donc ils disparaissaient. Donc si on veut des ours, il faut qu'on en remette. Alors on n'a pas le choix, donc on remet des ours, soit des monts cantabriques, soit de Slovénie, là où il y en a. Parce que dire « je suis pour l'ours des Pyrénées » tout en sachant qu'il est voué à disparition, c'est comme si on était pour la disparition de l'ours, quoi. Il faut le dire clairement.
Oui. Oh, mais où est passé cet ourson ?
Jean-Jacques, racontez-nous comment se passe un lâcher, parce qu'on imagine bien qu'entre des anti-ours d'un côté, des pro-ours de l'autre, dans cette vallée, donc ça avait lieu en 2018, là ça concernait donc deux oursonnes.
Deux ours, hein, d'adultes quand même, hein, c'est des ours de 5-6 ans. Quoi. Elles pesaient entre 100, 120 et 150 kilos.
Et elles pouvaient avoir des enfants sans problème.
Elles pouvaient avoir des oursons, oui, bien sûr, oui, elles étaient adultes, oui, sans problème. Donc elles ont été capturées en Slovénie, capturées avec fusil hypodermique, téléanesthésie, puis ensuite elles étaient donc chargées dans une cage, dans un camion, elles étaient acheminées vers la France, et puis en France, il y avait un débriefing avant le lâcher quand même, pour préciser les conditions exactes de terrain, à savoir que souvent, quand il y a eu des lâchers, il y avait des fuites et les anti-ours attendaient, quoi. Donc barrer les routes, c'était toujours
fouiller
assez compliqué.
Fouiller les voitures, faut le dire.
Ah, il y a eu des fouilles de voitures qui ont été faites. Donc ça s'est passé. Les deux ours ont été lâchés donc par hélicoptère en vallée d'Aspe, en vallée d'Ossau. Et ça a été assez épique, hein, parce que c'est l'hélicoptère a traversé la vallée d'Aspe au petit matin. Donc
les manifestants étaient en bas. En train d'ouvrir un peu les voitures.
Voilà, et puis ils ont vu passer. Pendant ce temps, l'hélicoptère, ouais. Il montait en Haute-Vallée, et donc il a été repéré. Et après, il y a eu donc des manifestants qui sont montés directement à l'endroit où le lâcher s'est déroulé. L'ours était déjà loin, elle est sortie comme une balle là, de la cage, et puis elle est partie, en pleine journée même, elle a traversé des pâturages, elle est partie très loin, et nous, donc on l'avait équipée d'un... Enfin, les deux étaient équipés de colliers GPS, donc on suivait, pas en temps réel, mais presque avec quelques heures de retard, les déplacements, et on savait où est-ce qu'elle était et ce qui s'est passé à ce moment-là.
Alors Jean-Jacques Camara, vous en fait, vous êtes dans la position de vous dire, évidemment que lorsqu'il y a un ours qui a été tué, ce qui a été le cas, donc il n'y a pas si longtemps en Ariège, il faut remplacer l'ours. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans le plan ours, hein, c'est bien indiqué.
Oui, c'est ça. Dès qu'un ours est tué pour des causes humaines, du fait de l'homme, il est prévu qu'il soit remplacé, quoi. Ce qui est tout à fait...
Mais sinon, vous n'êtes pas pour remplacer ou renforcer les populations à partir du moment où c'est viable, où ça commence à être viable.
La notion de population viable, c'est très compliqué. Ouais. Si on regarde les modèles actuellement en cours, on a tout lieu de penser que la population pyrénéenne n'est pas viable. Si on regarde les chiffres et l'évolution de la population au fil des ans depuis une vingtaine d'années, la population, elle est en croissance, quoi, elle augmente. Alors, il n'y a pas un péril immédiat pour cette population, hein, c'est sûr que... Donc, relâcher des ours pour des raisons démographiques, pour qu'il y ait une population d'ours encore plus importante... Moi, je ne vois pas trop, pour l'instant, la nécessité impérieuse. Il y aurait nécessité de relâcher des ours par rapport aux menaces de la consanguinité et à des problèmes génétiques qui pourraient affaiblir la population. Mais bon, pour l'instant, on n'en voit pas encore les effets non plus. Voilà. Moi, je crois que probablement, peut-être qu'on sera obligé un jour ou l'autre d'en relâcher des femelles ou pour accroître la population. Mais pour l'instant, ça a l'air de fonctionner.
Écoute-moi. Le vieux Balou va te montrer comment se battent les ours. Ouais. Et maintenant, défends-toi, petit. D'abord, sois très souple, décontracté. Ensuite, balance-toi. C'est ça. Et fais un terrible grognement d'ours. J'envoie la faute. Oh, misère. Mais je t'ai parlé d'un grognement de gros ours.
Qu'est-ce qui vous épate quand même dans cet animal que vous suivez depuis quand même des dizaines d'années? Qu'est-ce qui vous plaît, vous?
Ce qui me plaît, c'est d'être un peu comme eux, des fois, moi. C'est-à-dire, je m'explique, parce que c'est dans des endroits très, très durs, quoi. Et maintenant, moins, parce que je vieillis un peu, mais
C'est très physique. Comme on dit ici, j'aime bien bourriner, quoi, à fond dans les massifs de buis, dans les noisetiers, tout ça. C'est vraiment l'effort physique, je suis drogué à ça, quoi. Et alors, les zones à ours, c'est ça, quoi. Il faut vraiment y aller, quoi.
Ce que j'aime aussi, c'est les endroits dans lesquels évoluent les ours. Ce sont vraiment des endroits extrêmement beaux, quoi. C'est très très beau, c'est sauvage, c'est immense. On a du mal à penser qu'en France, on a des endroits comme ça qui sont aussi grands. Alors quand on les voit depuis la plaine, les petites Pyrénées, là, on se dit bof, sans avoir à passer au même endroit. Donc on découvre toujours quelque chose.
Un homme heureux avec les ours, donc Jean-Jacques Camara, au Pays de l'ours, aux éditions de la Salamandre. C'est très profond, hein. Toute son histoire est racontée. Vraiment, je vous le recommande, celui-là. Et donc, on peut remercier aussi les associations comme Férus, le Pays de l'ours, qui travaillent aussi en ce sens. La revue La Bille Baude, hein, ils avaient un numéro 9, là, consacré sur l'ours, qui est très très bien. Alors évidemment, cohabiter avec lui, c'est une chose, mais peut-être qu'un jour, que l'image de l'ours devienne une opportunité en termes de développement local, eh ben, ce serait pas mal. On n'y est pas encore, je le sais, on n'y est pas encore, même si énormément de personnes souhaitent garder donc les ours dans les Pyrénées, mais c'est en tout cas peut-être le bon chemin qui est à envisager. Merci à Djenab Sangaré, à la technique aujourd'hui, à Camille Blanès, à Jérôme Boulet donc, qui a réalisé cette émission, Thierry Dupin, Anne Gouzon qui nourrit les sites. La semaine prochaine, ah ben, on n'aura pas d'ours, on aura un peu plus de cochons parce qu'on sera du côté des Monts d'Arrée, on sera en Bretagne, on va parler donc de l'eau avec Thierry Burlot. Nous avons donc les podcasts, vous en avez l'habitude, hein, que ce soit La Tue du Bon Petit Loup, que ce soit CO2 Mon Amour, les éditos de CO2 Mon Amour, Bestiole aussi, le Instagram donc de Denis Chessou, ainsi que le Twitter. Vous savez tout, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter et une très bonne fin de dimanche. On se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine.